Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Dans le catéchisme, nous allons regarder ensemble à l'article 494. Qui est introduit par cette phrase « qu'il me soit fait selon ta parole », qui est donc une parole de Marie à l'ange Gabriel venu pour ce qu'on appelle l'Annonciation. Et juste avant, nous avons discuté ensemble sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Parfois, certains se disent, mais finalement, Marie n'avait pas le choix. Elle était, on pense, l'Immaculée Conception ou la prédestination de Marie, dont on a pu parler aussi. On pense à une préparation de la Vierge Marie, et en disant que finalement, c'est comme si elle était formatée, comme si elle était programmée pour dire oui. Et finalement, ce n'est pas du tout ça que le récit de l'Annonciation nous laisse entendre, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est au contraire une très belle catéchèse spirituelle sur ce que c'est que faire la volonté de Dieu, qui en fait c'est vouloir ce que Dieu veut. C'est bien ça que Marie aura posé à l'Annonciation.
Oui, et les grands saints nous ont montré que c'est de ce point de vue-là que surtout Marie est imitable, et que c'est dans cette ligne-là, par exemple, que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Moi, j'ai moins faim de prédication sur les privilèges de la Vierge Marie, même si je les tiens tous, parce que ça fait partie des dogmes de la foi. Mais ce qui me nourrit, c'est de voir Marie, qui est sainte. Or, elle est sainte à travers cette volonté qu'elle a su ajuster parfaitement à la volonté de Dieu. » Et pour nous, qui sommes tendus vers le royaume de Dieu, nous savons bien que la grande équation, comme disait le père Maximilien Kolb, saint Maximilien Kolb, un grand dévot de la Vierge Marie, que l'équation de la sainteté, c'est petit v égale grand V. C'est-à-dire que notre volonté doit, petit v, doit s'ajuster à grand V, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et Marie montre un exemple admirable. À peine elle a compris ce que lui demandait le Saint-Esprit à travers la voix de l'ange, elle accepte. Et aussitôt, disent les théologiens, la conception de l'enfant Jésus a pu avoir lieu dans son sein au moment où elle a dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est efficace, et Saint Irénée aura même une expression tout à fait surprenante en disant que par son obéissance, Marie est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Alors, la cause du salut, on sait bien que c'est la Trinité, que c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui est la cause vraiment décisive, efficiente et finale du salut. Mais Marie a comme été cause dispositive, cause presque matérielle, en laissant son corps, en laissant certainement cette partie d'engendrement possible en elle, tout à coup mystérieusement être fécondée. Il y a eu, à partir des cellules chromosomiques de XX, un Y qui est apparu quand même mystérieusement, pour qu'il y ait un enfant mâle qui naisse. Et donc il y a eu une transformation de son corps. Donc matériellement, son corps s'est mis à la disposition de l'action de Dieu. Et c'est à partir du moment où elle a dit « qu'il me soit fait selon ta parole », car tant qu'il n'y avait pas ce « oui », Dieu n'aurait pas forcé sa volonté. Elle a épousé, dit le catéchisme numéro 494, « à plein hein, ». Cette expression à plein doit nous toucher, à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut. Nous sommes toujours emberlificotés, dans le fond, par les conséquences en nous du péché originel, par notre lenteur, notre roideur parfois de notre intelligence, notre lenteur à passer à l'acte. Nous sommes touchés par la paresse, par les concupiscences, etc. Nous avançons à pas compter. Eh bien, Marie n'a pas eu tout ça. C'est pour cela que pour nous, c'est un modèle d'excellence. elle est, dès le premier instant de sa vie, plus sainte que tous les saints. Et pour nous, on comprend qu'elle s'est livrée sur le modèle de ce que sera la livraison de son fils au sommet de la croix. Elle se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son fils. Elle est toujours là. Dès, bien sûr, l'Annonciation évoquée précédemment, mais dès toutes les étapes, la naissance à Bethléem, et puis le moment où Jésus est dans le temple, où Marie va angoisser le rechercher. Marie a connu les angoisses de tous les parents. Elle n'a pas échappé au drame de la vie familiale. Elle a accepté aussi d'intervenir à Cana en comprenant qu'il y avait quelque chose de très grand qui se passait, qui annonçait les épousailles du Christ et de l'humanité. Elle est intervenue pour des choses très concrètes comme le vin des noces. Elle a eu une participation active aussi au pied de la croix, entourant Jean et Marie de Salomé. Et puis au moment de la Pentecôte, elle est encore là, autour des disciples. Donc elle acquiesce toujours à la volonté divine de salut. Elle n'est jamais absente.
Oui, c'est effectivement cette page du catéchisme est une vraie stimulation spirituelle pour nous, pour vraiment comprendre ce que c'est que cette volonté de Dieu, entrer dans la volonté de Dieu, y trouver la fidélité dans la volonté de Dieu. C'est vrai, Marie apparaît comme un modèle de sainteté par cela, et je trouve important que tu répètes que pour des grands saints, pour quelqu'un comme Sainte Thérèse par exemple, c'est cela qu'elle a cherché en premier, sans négliger
le reste, et voulant, dans l'obéissance de la foi, selon l'expression de Romains chapitre 1 verset 5 qu'on retrouve aussi au chapitre 15 de la même épître aux Romains, qui fait inclusion pour tous les épîtres romains. Vous voyez, tout le problème de la justification est autour de ce thème, l'obéissance de la foi. Eh bien, Marie est plus grande, dit saint Bernard, de par le fait qu'elle a cru que par le fait même qu'elle a enfanté. C'est quand même assez fort d'être arrivé à dire ça de saint Augustin. L'obéissance de la foi a déterminé en Marie sa position en s'appuyant sur la toute-puissance divine. Je voudrais encore le souligner, combien dans cette période que nous vivons, où la toute-puissance divine est parfois remise un peu en question par certains, l'ange Gabriel l'affirme, rien n'est impossible à Dieu. C'est une autre façon de le dire, mais ça correspond exactement à la même réalité. Rien n'est impossible. Et Marie a fait confiance à cela. Elle s'est appuyée sur cette parole de l'ange, et en le sachant d'ailleurs par toute l'écriture de la première alliance que rien n'était impossible à Dieu à travers les annonciations qu'il y avait eu dans l'Ancien Testament auprès d'Anne, la mère de Samuel, ou de Déborah, de Ruth, Judith, Esther, Yaël. Toutes ces femmes avaient eu comme des annonciations, et il y avait eu déjà la compréhension que ce qui comptait, c'était d'adhérer à la volonté divine, parce qu'elle est toute puissante et qu'elle finit par réaliser avec sagesse et bonté ce que Dieu veut, qui est toute sagesse, toute bonté et toute puissance. Le problème, c'est souvent que l'on oppose les attributs divins, alors que les attributs divins se fondent en Dieu. La bonté, la sagesse, la toute puissance ne forment qu'un en Dieu. Et on en voit un admirable tableau à l'Annonciation. C'est pour cela, je crois, que les peintres, dans toute l'histoire de l'Église, ou les écrivains d'icônes, ont beaucoup aimé ce mystère de l'Annonciation. L'ont peint, l'ont repeint, et ont voulu nous donner ces prémices. Parce que quand on est secoué par la vie, revenir aux prémices, ça nous fait toujours du bien. On retrouve l'élan de sa jeunesse, on retrouve un cœur filial, un cœur aimant, un cœur capable de suivre la volonté de Dieu. Je crois que là, nous avons, dans l'obéissance de Marie, ce modèle à ne jamais perdre de vue. Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. en comparant Marie avec Ève, les pères de l'Église et Saint Irénée en particulier, appelle Marie la mère des vivants et déclare souvent « par Ève la mort, par Marie la vie ». C'est une citation de Lumen Gentium numéro 56, qui est un très très beau moment marial du Concile Vatican II.
Oui. Par Ève la mort, par Marie la vie. Effectivement, je trouve important ce que tu viens de dire là sur la toute-puissance divine qui est déjà présente dans ce récit et dans ce mystère de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons une vision un peu, j'ai presque envie de dire catastrophique, de ce que ça peut signifier être puissant. Alors que, comme tu le dis bien, les attributs divins ne peuvent pas s'opposer. Son amour, sa compassion, on ne voit pas pourquoi elle s'opposerait à sa toute-puissance. C'est l'acte de confiance qu'on fait en un Dieu tout-puissant qui nous donne le juste regard sur ce Dieu tout-puissant.
Oui, et même, je dirais, l'espérance. Voyez, l'espérance, c'est parmi les dogmes de la foi ce qui nous concerne le plus spécialement pour notre salut. Eh bien, si la toute-puissance n'existe pas, eh bien, je ne pourrais pas faire un acte d'espérance. C'est le motif de mon espérance.
Oui, oui,
c'est la toute-puissance divine. Et saint Thomas d'Aquin l'enseigne, ainsi que toute l'Église, le motif de l'espérance, c'est la toute-puissance de Dieu. Supprimer la toute-puissance, l'espérance s'écroule. C'est pour cela qu'il y a tellement d'attaques, si vous voulez, sur la toute-puissance. C'est parce qu'on veut arracher aux hommes et aux femmes de notre temps leur espérance. On veut les faire désespérer. Et souvent, quand on rencontre des gens, le premier diagnostic, c'est qu'ils ont été attaqués de ce côté-là. Et il faut leur redonner l'espérance. Et le meilleur moyen, c'est de leur faire faire des actes d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras, par les mérites de Jésus-Christ, ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses.
Merci, frère Édouard.